À ouvrir la parole dans 2 Corinthiens chapitre 3, ce sera notre premier verset, 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Comment est-ce qu'on peut savoir quand l'Esprit du Seigneur est là? Et quelle est cette liberté dont il est question? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de liberté, on entend toutes sortes de gens qui parlent de toutes sortes de choses. Derrière le mot « liberté », on y met un peu n'importe quoi. La liberté du Saint-Esprit, elle fait faire à des gens certaines folies. C'est pour ça que c'est important de se poser la question, qu'est-ce qu'elle n'est pas cette liberté? Qu'est-ce que n'est pas la liberté du Saint-Esprit? Et ce soir, l'un des buts aussi de ce message, c'est qu'on puisse, chacun d'entre nous, répondre à cette question, est-ce que je suis là où il y a l'Esprit du Seigneur? Parce que des fois, on a des impressions, et quand on étudie la parole de Dieu, on a des certitudes. Des fois, on a l'impression qu'on est l'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Mais est-ce qu'on a la certitude qu'il l'est? Vous voyez qu'il y a une différence. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous parle, que vous savez avec certitude qu'il y a eu le Saint-Esprit dans la parole? Bon, il n'y a pas de piège là. Hein. À quel texte vous pensez? La Pentecôte. Acte chapitre 2, c'est ce qu'on va lire justement. Là, on sait, c'est la parole qui le dit, on sait avec certitude que le Saint-Esprit il était présent ce jour-là. Acte chapitre 2, verset 1er. On va lire les quelques versets, de voir ce qui s'est passé. Et au travers de tout ce passage, nous voyons qu'est-ce que c'est la liberté du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie quand le Saint-Esprit est là? Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Dans ce passage, nous voyons plusieurs aspects de la liberté du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous arrivez à les discerner, mais c'est ce qu'on va s'appliquer à faire ce soir. Et on voit par exemple la liberté de s'accorder et de s'assembler. La liberté de s'approcher de Dieu et de l'adorer. La liberté d'annoncer Christ avec assurance. La liberté d'avouer son péché et de l'abandonner. Ça, on le verra un peu plus loin dans le passage. mais d'abord la liberté de s'accorder et de s'assembler. Vous avez remarqué ce premier verset, qui n'est pas là pour rien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. On dirait qu'il y a une répétition. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Mais ils se sont trompés là. Le Saint-Esprit s'est trompé à ce moment donné. Il a voulu accentuer le fait qu'ils étaient réunis. C'est vrai qu'il y a des endroits sur la planète, on a une carte là qui nous montre les pays persécutés où ils ont du mal, les pays en noir, c'est interdit de se rassembler. Et est-ce que c'est ça dont il est question? Non. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire qu'ils étaient dans un même lieu, mais ils étaient aussi accordés. La liberté du Saint-Esprit, c'est d'abord de pouvoir faire toutes ces choses qu'avant on ne pouvait pas faire. C'est ça la liberté du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce qu'avant je ne pouvais pas faire, maintenant je peux le faire. Avant, est-ce que ça nous serait venu à l'idée peut-être de nous réunir, nous tous qui sommes là ce soir? Peut-être pour, je ne sais pas, jouer au Scrabble ou faire une balade en montagne. Peut-être qu'on se serait retrouvés comme ça si on ne connaissait pas le Seigneur. Mais est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de chances que tous ceux qui sont présents ici ce soir se soient retrouvés sans l'Esprit du Seigneur qui nous a convaincus? Non. C'est lui qui nous permet d'être réunis. Mais ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. Vous connaissez cette promesse qui est malheureusement devenue une excuse au fait qu'on n'est pas nombreux certaines fois. Des fois, on emploie cette promesse en disant « Bon, ben, on n'est pas trop nombreux, mais il y a ce verset qui est là. Là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et c'est vrai que, heureusement qu'on a ce verset, des fois ça nous console, des fois ça nous fortifie. Mais de quelle manière le Seigneur Jésus est présent? Quand il s'adresse à ses disciples, et il leur dit, mais partout où vous allez vous assembler, je serai au milieu de vous. De quelle manière ça sera? Par l'Esprit, on est d'accord, ça ne sera pas de manière physique. Là où deux ou trois sont assemblés, on pourrait le dire comme ça, dans le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est là aussi. Mais vous avez remarqué, ce qui précède ce verset, dans Matthieu 18, il se trouve, Matthieu 18, 20, il y a le verset 19 qui dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Vous connaissez ce verset? Et c'est par la suite qu'il est dit « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc il y a le car qui est là, qui nous montre que le verset d'avant, il est important « Si deux d'entre vous s'accordent. » Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois peut-être de nous rassembler, mais pas de nous accorder? Est-ce que ce n'est pas important des fois de... Oui, de s'assembler, c'est merveilleux quand on peut tous s'assembler. Mais est-ce que ce n'est pas encore mieux quand on peut s'accorder? Être d'accord, se mettre d'accord. Le mot qui a donné « s'accorder », c'est le mot qui a donné pour nous « symphonie ». Quand une symphonie, ce soir, on a eu deux violons qui jouaient ensemble. Ils étaient accordés, heureusement. Parce que quand les instruments ne sont pas accordés et qu'ils jouent ensemble, ça fait pas une symphonie, ça fait une cacophonie. Et est-ce que des fois, ce n'est pas ce qui se passe quand on se réunit ensemble, mais qu'on n'est pas accordé? Qu'est-ce que ça veut dire, s'accorder? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Est-ce que l'Esprit est là, par exemple, quand je suis fâché avec mon frère, mais que je viens à la réunion et que je ne lui adresse pas la parole, mais que je participe, je chante les cantiques, peut-être j'élève la voix, mais par contre, je n'adresse pas la parole à mon frère? Est-ce que c'est ça, la manifestation de l'Esprit? Est-ce que l'Esprit, ce n'est pas un esprit de paix? C'est-à-dire qu'il va me pousser à rechercher la paix. Est-ce que l'Esprit est là quand je suis frustré parce que mon frère ne pense pas pareil que moi, il n'a pas la même opinion que moi sur tel ou tel domaine? Est-ce que l'Esprit est là? Non, l'Esprit, c'est un esprit peut-être de patience. Peut-être qu'il faut que je prie pour mon frère parce que c'est lui qui a besoin de faire des progrès. Peut-être que c'est moi qui ai besoin de progresser. Je pensais à cela parce que je vous dis ce qui s'est passé dimanche, quelque chose que personne n'a vu, mais quelqu'un qui m'a dit une parole juste avant le culte et une parole juste après le culte. Je ne dis pas qui c'est, je ne dis pas ce que c'était. Par contre, ce n'était pas quelque chose de positif. Mais là où je peux dire qu'il y avait l'esprit, c'est que au début, ce n'était pas une parole positive, mais à la fin, la personne elle est venue me voir et m'a dit « Je te demande pardon. » Et ça, pour moi, c'est la preuve que le Saint-Esprit, il agit. Quand la personne se rend compte que ce qu'elle a dit, ce n'était pas bien, et qu'elle vient demander pardon, ben là, c'est la preuve que l'Esprit, il agit. là où il y a la liberté de s'accorder. Oui, peut-être que je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas des paroles critiques, je n'ai pas des paroles qui sont négatives, je n'ai pas des paroles qui font mal peut-être. Là, il y a la liberté. Combien c'est important de s'accorder. Ça ne veut pas dire qu'on sera 100% d'accord sur tout. C'est impossible, on est tous différents, on a tous certaines façons différentes de voir. Par contre, pour que les instruments s'accordent, il faut qu'ils soient tous accordés sur le diapason. Vous connaissez cet instrument-là, qui on tape, qui donne la note parfaite. Qu'est-ce que c'est notre diapason à nous? C'est le Seigneur, c'est la parole qui nous permet de nous accorder. Est-ce qu'il n'y a pas un passage qui nous parle qu'il y a, par exemple, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu? C'est ça qui doit être notre diapason. Tout ce qui est en dessus, c'est bien. Mais si on est d'accord sur ça, je pense que tout le reste, on arrivera à s'accorder. Et avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la paix de Dieu, avec l'amour de Dieu, on va être capable, eh bien oui, de fermer la bouche peut-être quand on voudrait réagir, quand on voudrait dire quelque chose, on va être capable de montrer, manifester l'amour à notre frère. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer, et qu'on ne le fait pas à Sainte-Anne, de forcer les gens à venir à la prière. À quoi ça sert ? De forcer quelqu'un à dire « Viens prier, il faut que tu viennes à la réunion de prière. » Quelqu'un de spirituel, il vient prier. À quoi ça sert si la personne, elle vient prier et puis qu'elle n'est pas accordée avec les autres? C'est un problème qui date depuis des siècles, hein, parce que le pasteur Finet, il parle dans un de ses livres, il explique qu'il a rencontré une dame qui priait pour que son mari se convertisse. « Ah Seigneur, convertis mon mari, convertis mon mari !» Et elle y mettait de la ferveur, elle priait, mais elle voyait que rien ne se passait, elle se lassait, elle n'en pouvait plus. Et puis, un jour, il lui pose la question, « Mais vous priez pour que votre mari se convertisse, c'est bien, mais dans quel but ?»« Eh bien, comme ça sera plus facile pour que je vienne à l'église, pour me transporter. » Voilà le but pour lequel elle priait pour la conversion de son mari. Et il lui a dit, mais vous priez avec un motif égoïste. Et c'est la même chose quand on prie parce que notre mari se moque de nous et qu'on en a marre. Est-ce que c'est une bonne prière? La prière de conversion, oui, mais le motif, il n'est pas bon. Quand on prie avec un mauvais motif, ça ne sert à rien. Et si quelqu'un vient à la réunion de prière qui a un mauvais motif et que nous, on prie avec un bon motif, est-ce qu'on est accordé? Non. Est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur? Ben, il y a l'Esprit du Seigneur sur la personne qui est accordée avec le Seigneur. Mais sur l'autre, elle, ça n'y est pas. Vous comprenez? Pour bien prier pour son mari, je sais qu'il y a des sœurs qui sont dans ce cas. Il faut prier parce qu'on se rend compte que le péché déshonore Dieu et que le fait que la personne se convertisse, ça sera un moyen que Dieu va se glorifier. Ça, c'est des bons motifs. Et Seigneur, oui, et c'est pour cela que nous intercédons semaine après semaine, jour après jour, afin que les personnes qui sont mariées avec des non-croyants puissent être fortifiées, puissent se rendre compte de cette situation et prier avec les bons motifs. Par contre, ce n'est pas une excuse pour dire « Ah ben je ne vais pas venir à la réunion de prière, le pasteur il a dit qu'il ne fallait pas venir. » Vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est l'occasion. Si je n'ai pas envie de prier, moi ça m'est arrivé d'aller à l'église et de ne pas avoir envie de prier. De venir aux réunions et puis de me demander qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces gens qui priaient à haute voix. Ça m'est arrivé, j'ai connu ce sentiment. Mais quand Dieu, par le Saint-Esprit, a touché mon cœur, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose de bon. Je ne marchais pas selon l'Esprit, je marchais selon la chair, je marchais selon mes sentiments, je marchais selon les choses que je ressentais et du coup je n'avais pas envie de prier. Mais la prière, ce n'est pas un sentiment, c'est un commandement. Voilà pourquoi nous avons besoin de vivre cette liberté de l'esprit. Oui, il faut prier pour l'unité. C'est merveilleux de prier pour l'unité. Mais la Bible, elle dit aussi, efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La liberté de s'accorder, de s'assembler, la liberté de s'approcher de Dieu et de l'adorer. Quand on parle de liberté dans l'adoration, aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Et on nous amène dans des discussions de toutes sortes de niveaux, mais qui ne sont pas ce qu'on trouve dans la parole, dans ce chapitre 2 des Actes. Est-ce que la liberté de l'esprit dans l'adoration, c'est par exemple le fait de chanter des chants anciens ou des chants nouveaux? C'est ça la liberté? Ah, nous on est libre parce qu'on chante des chants nouveaux. Ah, nous on est moins libre parce qu'on chante des chants anciens. Des fois, on entend des gens qui nous disent ça. Ou alors, c'est parce que, en fonction des postures physiques qu'on a, Ah, nous, on est libre parce qu'on peut se lever, ou on peut lever les mains, ou on peut rester assis, ou on peut se mettre à genoux. Il y a toutes sortes de choses. On peut danser, on peut sauter. C'est ça la liberté de l'esprit. Est-ce que c'est ça la liberté de l'esprit? Est-ce que c'est les instruments qu'on va employer? Ah, pour qu'on ressente la présence de Dieu, il faut qu'il y ait la batterie. Ah non, il ne faut pas qu'il y ait la batterie. Ah, il faut qu'il y ait la flûte traversière. Ah, il faut qu'il y ait deux violons. Non, un violon. Non, trois violons. Est-ce que c'est ça qui qualifie la nature de l'adoration qu'on va donner au Seigneur? Est-ce que c'est ces aspects-là et les endroits dans les pays persécutés où ils ne peuvent pas avoir d'instruments, comment ils font? Pas du tout. Est-ce que ça va empêcher qu'il y ait l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est ça qui détermine la qualité de notre adoration? Ou est-ce que la question elle n'est pas beaucoup plus profonde que ça? La liberté de l'Esprit, c'est qu'avant de m'être repenti, je n'avais pas la possibilité de m'approcher de Dieu. Et maintenant que je me suis repenti, maintenant que j'ai saisi par la foi la croix, le sacrifice de Jésus à la croix, que je suis lavé de mon péché, je peux m'approcher de Dieu avec confiance. Vous connaissez ce passage, par la foi en Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et parce que je peux m'approcher de Dieu avec confiance, je peux être touché par le Saint-Esprit. Regardez quand même l'exemple de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Parce qu'ils se sont approchés de Dieu avec confiance, parce qu'ils s'étaient unis dans la prière et accordés, ils ont été touchés dans la présence de Dieu. Touchés, marqués de l'empreinte divine. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y a des promesses qui se sont accomplies à ce moment-là. Ils ont vécu l'expérience du baptême dans l'Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont eu l'évidence du parler en langue. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'adoration de Dieu. C'est ce que nous a rappelé notre frère tout à l'heure. On ne peut pas venir et adorer le Seigneur et puis ne pas dire les merveilles du Seigneur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils se sont mis à exprimer? Les gens, ils leur ont dit, mais comment est-ce que nous les entendons parler dans nos langues au verset 11 des merveilles de Dieu? Voilà ce qui se passe. Quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'adoration de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu, soi-disant, et qu'on commence à dire des paroles mauvaises, méchantes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Hein, mais quand il y a l'adoration de Dieu, les merveilles du Seigneur, quand on parle avec quelqu'un, on sait tout de suite si elle est dans cette adoration-là ou si elle est dans cette frustration, dans cette amertume qui fait qu'elle dit des paroles mauvaises. Ou des fois, ce n'est même pas des paroles, mais c'est des réactions. On sent qu'il y a un problème. Mais la Bible nous enseigne que dans la présence de Dieu, il y a les merveilles de Dieu qui sont déclarées, proclamées. Ce qui a touché la foule, ce n'était pas le parler en langue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'était pas que le parler en langue. C'est l'adoration qu'ils ont compris au travers du parler en langue. Le parler en langue, pour eux, et pour ceux qui l'ont entendu, c'était des langues qu'ils connaissaient dans leur langue maternelle. Des fois, on est là à tellement insister sur l'évidence du parler en langue, c'est merveilleux ce qui se passe à ce moment-là, mais ce qui est important, c'est pas qu'on parle en langue et qu'on parle le plus fort en langue. Des fois, on croit que parce qu'on parle en langue plus fort que les autres, le Seigneur nous bénit. Ça n'a rien à voir. Il y a l'exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a vécu un moment particulier où s'est mis à prophétiser. Vous savez qui c'était? C'était le roi Saül, alors qu'il venait de perdre l'onction de Dieu. Il a rencontré une troupe de prophètes et saisi par cette atmosphère spirituelle, il s'est mis à prophétiser. Mais ce n'est pas pour autant qu'il était approuvé de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle en langue qu'on est approuvé de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prophétise qu'on est approuvé de Dieu. Ce n'est pas ça qui certifie. Bien sûr qu'on a plus de chances quand on marche dans la sainteté de vivre ces choses et de faire des progrès dans ces domaines. Mais ce n'est pas parce qu'un jour on a vécu cette expérience et qu'on se l'est approprié et qu'on s'attache à ça et que notre vie en obéit plus qu'on est approuvé de Dieu. Comprenez la différence. Ce qui a touché les personnes et ce qui va toucher les gens aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui s'approchent de Dieu, qui sont marqués de sa présence et qui deviennent des adorateurs en esprit et en vérité, dans la vie de tous les jours. C'est des personnes qui font ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant. Avant, elles ne pouvaient pas marcher dans la justice. Maintenant, on peut marcher dans la justice. Avant, on ne pouvait pas se conduire avec sagesse dans ce monde. Maintenant, on peut le faire par l'Esprit de Dieu. Avant, on ne pouvait pas vivre dans la sainteté. Ce qui va interpeller les gens autour de nous, ce n'est pas qu'on va parler en langue forte, c'est la sainteté de nos vies. C'est notre obéissance au Seigneur. C'est le fait que quand les gens vont nous voir, il va y avoir l'empreinte de Dieu sur notre vie. Dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 3, il est question de Moïse. Moïse qui mettait un voile sur son visage parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui resplendissait parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Mais juste avant le verset qu'on a lu, il est dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et nous avons ce privilège en tant que chrétiens aujourd'hui de vivre des moments dans la présence de Dieu où nous pouvons être touchés. Et Dieu veut que le voile soit ôté, que cette gloire qui se manifeste sur nos vies puisse rayonner sur les gens qui nous entourent, afin de les attirer. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Est-ce que nous avons soif de ce contact avec Dieu? Est-ce que nous avons soif de ces moments de communion avec Dieu? Est-ce que nous voulons être touchés, visités, abreuvés de son esprit, transformés dans sa présence, de gloire en gloire? Alors il faut qu'on s'approche de lui, avec confiance, et qu'on puisse devenir ses adorateurs. La liberté de s'approcher de Dieu et de l'adorer, la liberté d'annoncer Christ avec assurance. On confond des fois la présence de l'Esprit avec une certaine ferveur, un certain zèle pour attirer les gens dans l'Église. On voit des gens qui font toutes sortes de programmes, de concerts, de machins, toutes sortes de choses pour attirer les gens dans leur Église, parce qu'ils veulent absolument qu'ils viennent dans leur Église ou dans leur mouvement, ou ils veulent les amener à un homme. C'est vrai que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a du zèle, il y a de la ferveur, il y a une grande liberté même de parler. Des fois, on ne trouve pas les mots, mais par l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous saisit, il nous donne les paroles qu'il faut. C'est exactement ce qu'il a dit à ses disciples quand il a voulu les envoyer. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ne vous inquiétez pas. Parce que le Seigneur vous donnera la manière qu'il faut de parler. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parlera. Quand il y a l'Esprit de Dieu, alors on a cette envie d'annoncer Christ avec assurance. Mais voilà, c'est pour amener, pas à une église, c'est pas pour amener à une religion, c'est pas pour amener à un mouvement ou à un homme, c'est pour amener à Jésus-Christ. C'est pour que les gens puissent comprendre que Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur, c'est avec lui qu'il faut, c'est par lui qu'il faut passer pour aller au ciel. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté d'annoncer Christ avec assurance. Regardez le discours de Pierre, on va pas le lire en entier, mais quelques versets qui nous montrent que dans ce grand discours que Pierre a fait, combien de fois il a parlé de Jésus? En fait, il a fait que parler de Jésus, partout. Alors bien sûr, il cite des textes de l'Ancien Testament pour approuver, pour argumenter ce qu'il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Au verset 22, par exemple, « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité. » Et on pourrait lire tout le passage au verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu. » Dans tout ce passage, Pierre ne fait qu'une chose, Pierre rempli du Saint-Esprit ne fait qu'une chose, parler de Jésus avec assurance. Est-ce qu'à un moment donné, Pierre, il ne s'est pas caché? Il n'a pas dit, non, je ne connais pas Jésus. Est-ce qu'il était rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y avait la marque de l'Esprit à ce moment-là dans sa vie? Non, bien au contraire. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, la preuve qu'il y a été, que le Saint-Esprit était présent, c'est qu'il avait la liberté d'annoncer Christ avec assurance. Quand la deuxième fois, dans le chapitre 4, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit à nouveau, c'est ce qui s'est passé. Il est dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et quelqu'un va me dire, mais oui, mais c'est bien, mais moi je suis timide. Mais je dis, raison de plus pour chercher le Saint-Esprit. Est-ce que devant Dieu, on pourra dire, quand on sera devant son trône, Seigneur, désolé, j'étais timide. Est-ce que vous imaginez un instant que cette excuse va tenir le coup? Et en plus, je vous parle, mais je vous parle avec beaucoup de liberté parce que je suis un grand timide. Mais quand il s'agit de d'être rempli du Saint-Esprit et de parler de Christ, de parler de ce que Jésus a fait pour nous. Moi, il y a quelque chose qui est là dans mon cœur. L'image, elle n'est pas donnée d'ailleurs. Une langue, des langues comme des langues de feu qui sont venues se poser sur chacun d'entre eux. Ça veut dire que dans leur bouche, c'est l'image un petit peu, dans leur bouche, ça, il y avait un feu dévorant dans leur cœur, il y avait quelque chose qui était obligé de sortir. Et d'ailleurs, c'est sorti et ça a amené une bénédiction, ça a amené une grâce sur toutes les personnes qui l'ont entendu. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté d'annoncer Christ avec assurance. Est-ce que, frères et sœurs, on n'a pas besoin de rechercher encore ce Saint-Esprit ? Est-ce qu'on peut dire, mais moi, cette liberté, je l'ai, c'est bon ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de dire, Seigneur, je la veux encore davantage ? Est-ce que ces personnes auraient pu, par leur propre force, dire les merveilles de Dieu à ces personnes ? Ben, ils auraient pu, oui, mais ça aurait pris le temps d'acheter des livres pour apprendre. Alors, il faut apprendre l'égyptien, apprendre le mède, apprendre le part. Chacun se serait mis dans un bureau, des chambres à part. Ça aurait pris peut-être des mois avant qu'ils puissent arriver à dire quoi que ce soit. Mais par l'Esprit de Dieu, ça a pris quelques secondes pour qu'ils puissent faire des choses que par eux-mêmes, ils n'auraient jamais pu faire. Est-ce que, frères et sœurs, nous n'avons pas soif de vivre ces choses-là ? Est-ce que c'est facile de rendre témoignage ? Non, ce n'est pas facile. Mais par l'Esprit de Dieu, oui. Il y a la liberté de pouvoir le faire avec assurance. Est-ce que c'est facile d'élever la voix dans l'église et d'être une bénédiction pour ceux qui entendent ? Non, ce n'est pas facile. Moi, le premier, je peux vous le dire, ce n'est pas facile. Mais par l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui est possible si on le laisse couler en nous et si on laisse nos vies déborder de ce Saint-Esprit. C'est la promesse que Jésus a faite. Ceux qui croiraient en lui, l'Esprit viendrait comme un fleuve. La liberté d'annoncer Christ avec assurance, la liberté, je finis avec ce sujet, la liberté d'avouer son péché et de l'abandonner. Un des plus grands signes de la présence de l'Esprit de Dieu et de son action, c'est la conviction de péché et la repentance. Et je crois que c'est peut-être un des signes qui nous manque le plus. Le fait que nous puissions, tous autant que nous sommes, quel que soit le niveau de progression dans lequel on se trouve, de point de vue spirituel, avoir cet esprit de repentance. Cet esprit de conviction de péché. On entend beaucoup de doctrines qui dénaturent la liberté en Christ. On entend les gens qui disent « Ah, du moment qu'on croit en Dieu, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. » Déjà, dans les Épîtres, on voit que c'était quelque chose qui existait à l'époque. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Pierre, je crois, « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. » Il y a des gens qui utilisaient la liberté en Christ pour couvrir leur méchanceté. « Ah, ben, de toute façon, le Seigneur, il pardonne. De toute façon, le Seigneur... » Il fait grâce, donc je peux pécher. Et l'apôtre Paul aussi en a parlé plusieurs fois. Mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la conviction de péché. Quand il sera venu, l'Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais le Seigneur, il ne veut pas seulement nous écraser sous une conviction de péché, mais il veut en plus nous montrer que son Esprit, c'est un esprit de grâce. L'Esprit convainc de péché, mais l'Esprit il nous amène à la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La liberté de l'Esprit, c'est que nous puissions être délivrés justement de ce péché. Que nous puissions être libérés de tout ce qui nous entrave, de tous ces obstacles. Ça fait combien de temps ? Et je crois que cette parole s'adresse à quelqu'un particulièrement ce soir. Ça fait combien de temps que Dieu t'a montré ton péché ? Et que tu refuses de l'abandonner. Tu essayes de compenser en faisant beaucoup de choses, mais tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande. C'est la preuve que ce que tu fais n'est pas inspiré par l'Esprit. Et la preuve même que tu t'opposes à l'Esprit. Parce que là où il y a résistance, là où il y a désobéissance, là où il y a refus de céder devant Dieu, là, il n'y a pas l'Esprit. Mais là où il y a quelqu'un qui se repent, qui reconnaît son péché, mais qui reconnaît aussi la grâce de Dieu et le pardon de Dieu, alors là, il y a l'Esprit. Combien nous avons, frères et sœurs, besoin de ce soir peut-être dire, Seigneur, oui, je reconnais que j'ai laissé telle chose dans ma vie, telle situation, tel péché s'installer. Seigneur, je veux te demander pardon. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a il y a la conviction de péché, il y a cette repentance. Et la liberté, c'est d'avouer son péché, de l'abandonner, d'en être libéré. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on ne pouvait pas être libéré du péché. Maintenant, on peut. Combien de personnes, je pense à des personnes en particulier, je sais que ça fait des années qu'ils luttent, des personnes qui ne sont pas là, rassurez-vous, mais des personnes qui luttent depuis des années et qui on a l'impression qu'ils ont baissé les bras. Mais le fait de baisser les bras, ce n'est pas inspiré par l'esprit, ça. La Bible nous dit « Marchez selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. » Soit on marche selon l'esprit, soit on marche selon la chair. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Regardez au verset 37 du chapitre 2, dernier verset. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est comme si Pierre, avant de pouvoir conseiller la foule, il avait dû expérimenter. D'ailleurs, ce n'est pas comme, c'est ce qui s'est passé. Pierre, il a expérimenté la grâce de Dieu. Il a expérimenté la délivrance du péché. Il a expérimenté la délivrance de la culpabilité. Il a pu parler avec liberté du fait qu'ils avaient crucifié, qu'ils avaient renié. Plus tard, il parlera qu'ils ont renié le juste. Lui, il a renié, mais il a été pardonné, blanchi. Et c'est comme si, quand les personnes viennent le voir, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme si Pierre leur disait, mais faites comme moi, repentez-vous. Vous avez remarqué ce terme, ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce que vous imaginez qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont eu le cœur vivement touché, ça veut dire qu'ils ont eu une grande émotion de joie. Ah, c'est merveilleux, on peut être sauvé. Ah, qu'est-ce qu'il parle bien ce Pierre, qu'est-ce que ce discours est impressionnant. Est-ce que c'est ça le cœur vivement touché qu'il y a eu à ce moment-là? Je ne crois pas du tout. Je crois que le cœur vivement touché, c'était des gens qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Des gens qui ont reconnu qu'ils n'étaient pas bien aux yeux de Dieu, mais qui ont reconnu que Dieu était capable de faire grâce. Voilà ce qui nous montre quand l'Esprit est là. Qui ce soir a le cœur vivement touché dans ce sens? Parce qu'il réalise qu'il a laissé traîner certaines choses dans sa vie. Alors repentez-vous, c'est tout. Repentez-vous et saisissez la grâce de Dieu. Croyez que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté du péché. On va se recueillir. Est-ce que nous voulons, frères et sœurs, vivre la liberté en Christ? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que ce que je vis, c'est la liberté en Christ? Peut-être que le Seigneur me montre ce soir qu'alors que je crois qu'il y a cette vie spirituelle, en fait, il y a des mauvaises pensées qui sont là, ou il y a des mauvaises paroles qui sortent de ma bouche. Jacques, il a dit, est-ce que la source, elle peut faire jaillir de la même ouverture l'eau bonne, l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas possible, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est rempli de l'esprit puisse avoir des mauvaises paroles, puisse avoir des différends avec un frère ou une sœur? Est-ce que c'est possible de venir et de prier avec quelqu'un alors qu'on ne s'est pas accordé avec lui? Est-ce que c'est possible de ne pas oser demander pardon et après de dire « Oui, l'Esprit du Seigneur est là ». Non, ce n'est pas possible. Et souvent, on se trompe par de faux raisonnements. Mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Oui, s'il y a un différent, ça peut arriver. Mais par l'Esprit du Seigneur, j'ai la capacité de pardonner. J'ai la capacité d'aimer, j'ai la capacité de patienter, j'ai la capacité de chercher la paix. Oui, je veux que par ma vie, je puisse être cet adorateur qui va amener les autres à s'approcher de Dieu. Mais pour que je puisse les amener à s'approcher de Dieu, je dois moi-même m'approcher et être marqué comme Moïse. Moïse qui a vu la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la loi disait que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais par la grâce en Jésus-Christ, nous pouvons voir Dieu et vivre. Nous pouvons expérimenter la présence de Dieu et que cette présence marque nos vies et amène les gens à être interpellés. Frères et sœurs, Est-ce que ce soir, nous ne voulons pas goûter à cette liberté qu'il y a en Christ? La liberté glorieuse des enfants de Dieu, comme dira Paul. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a besoin dans ces temps de la fin? Est-ce que ce message, justement, ce n'est pas un message qui a besoin d'être entendu? Dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Toi qui n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, qu'attends-tu pour le rechercher? Ou toi qui le cherches, qu'attends-tu pour reprendre la recherche davantage, avec plus de zèle et de ferveur? Le Seigneur est le plus intéressé à nous le donner, parce qu'il sait dans quelle liberté cela nous conduit. Il sait que, rempli du Saint-Esprit, on est libéré du péché. On a cette capacité de parler de Dieu avec assurance, ce qu'on n'a pas naturellement, mais par l'Esprit du Seigneur. Éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce verset, Seigneur, ce simple verset, mais qui renferme toutes ces vérités, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, nous ne voulons pas vivre des libertés illusoires, nous ne voulons pas vivre, Seigneur, des fausses libertés, des libertés mal comprises. Nous voulons vivre la liberté de l'Esprit. Nous voulons vivre ces choses, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif, Seigneur, de connaître un temps de visitation. Nous avons soif, chacun pour notre part, d'être marqué de ton empreinte. Et, Seigneur, de déverser autour de nous ce que nous aurons reçu dans ta présence, à genoux, dans le secret de nos chambres. Oh, Seigneur, dans ces instants, tu connais les cœurs. Tu connais les situations. Tu connais celui peut-être qui est dans le péché, peut-être qui ne te connaît pas, mais qui ce soir a le cœur vivement touché, parce qu'il se rend compte qu'il a fait le mal, mais qu'il peut se repentir. Touche-le, Seigneur, ce soir. Oui, que par ta grâce, à cause du sacrifice précieux de Jésus, il puisse, Seigneur, trouver la paix en toi. Dans ces instants, merci de nous donner cette assurance pour parler de toi. Nous en avons besoin. Merci de nous conduire pour ces projets, pour l'Église, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ton esprit, de ta grâce infinie. Nous avons besoin de cet esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, Seigneur. Que ta force, Seigneur, puisse nous remplir. Que ta sagesse puisse nous remplir. Que ton amour, Seigneur, puisse nous remplir. Afin que nous prenions soin les uns des autres et que nous aimions ce monde. Oui, non pas là, nous ne voulons pas avoir l'amour du monde, mais l'amour des âmes qui sont dans ce monde. Merci, Éternel, de le faire pour la gloire de ton nom. Amen.